Bonsoir et bon début de semaine à tous. Il s'observe depuis un certain moment une série de crises dans les fonctionnements des institutions provinciales de certaines provinces. C'est le cas par exemple de l'Ituri où l'Assemblée provinciale a démis la semaine dernière le gouverneur de cette province qui lui rejette cette décision. Au Sankuru, l'Assemblée provinciale considère le gouverneur comme démissionnaire à cause de son absence à la semaine dernière à la plénière de l'investiture de son gouvernement. Une situation que conteste le concerné. Quelle analyse faire de cette cohabitation difficile entre les institutions provinciales en RDC? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 2 décembre 2019. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Christian Moleka, il est analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Christian Moleka, bonsoir.
Bonsoir Kelly.
Maître Georges Kapiamba, voilà, avocat et président de l'ONG Association Congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle. Maître Kapiamba, bonsoir. Il n'est pas encore en ligne, le professeur Jeff Mudimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Professeur Jeff Mudimbi, bonsoir.
Bonsoir Madame Kéline.
Vous êtes très nombreux, auditeurs de Radio Okapi, à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Paulin Mukendi depuis Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Tout ce qui se passe dans certaines assemblées provinciales est dicté par certaines autorités de Kinshasa, d'où il faudrait que le ministre national de l'Intérieur fasse correctement son travail. Yves Malipo Kabiona, c'est le mode de leur élection qui est à la base de cette instabilité. Les arrangements politiques, les coulisses et les billets des banques ont joué un rôle prépondérant au détriment de la compétence et du programme. Merci de nous suivre à Bounia, dans la province de l'Ituri, sous la 104.9. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Le gouverneur de la province de l'Ituri, Jean Babanissa, a rejeté la décision de sa destitution par la majorité des députés provinciaux. 27 élus provinciaux sur les 28 que compte cet organe délibérant ont voté mercredi 20 novembre la déchéance de Babanissa. Dans une interview accordée à Radio Okapi, Jean Babanissa parle du non-respect de la procédure. Il promet de se référer aux cours et tribunaux pour l'interprétation de la loi. On l'écoute au micro de Martial Kizabia Mungu.
Nous avons été appelés par la vice-primature en charge de l'intérieur. Nous avons des contacts politiques. Il y a le vice-gouverneur et moi qui avons été appelés, ainsi que le président de l'Assemblée et son vice-président qui avait été appelé depuis lundi, mais il ne s'était pas présenté pour tenir de force cette séance.
Vous êtes déjà vu avec le responsable ici?
Oui, nous sommes en contact. Les contacts politiques sont là et nous attendons aussi la procédure à mettre en place au niveau de la justice et au niveau de l'administration pour remettre de l'ordre dans ce qui a été fait. Et comme je vous dis, ce n'est pas une course pour nous-mêmes, mais c'est une recherche à la paix, à l'amour de notre province et à l'unité de tous les Ituriens que nous cherchons.
Pour combien de temps?
La période qu'on est ici, je ne sais pas. On aura des réunions certainement ce week-end avec les différentes autorités, mais quelques réunions ont déjà commencé. Des réunions politiques, des réunions administratives et des réunions aussi juridiques.
Au Sankuru, il n'est point question qu'une quelconque démission du gouverneur des provinces, Joseph Stéphane Mukumadi, tel que le prétend le bureau de l'Assemblée provinciale à Lusambo, a affirmé le porte-parole de M. Mukumadi dans un communiqué parvenu le samedi 30 novembre à Radio Okapi. Ce communiqué donne en effet la position du gouverneur du Sankuru après la déclaration du bureau de l'organe législatif de la province, le considérant comme démissionnaire à cause de son absence à la plénière d'investiture de son gouvernement. Joseph Mukumadi soutient que le bureau de l'Assemblée provinciale était bel et bien saisi de la convocation à Kinshasa, toute affaire cessante du gouverneur et du président de l'Assemblée provinciale par leur autorité hiérarchique, le ministre de l'Intérieur. Le gouverneur de Sankuru n'a jamais démissionné et il n'en a pas l'intention. Il réitère son engagement à travailler pour le peuple du Sankuru, a martelé Maître Landry Pongo, porte-parole du gouverneur Mukumadi. On l'écoute.
Les deux étaient de façon réciproque informés et tenaient à aller ensemble. On n'a pas compris un revirement qui a fait que le gouverneur aille seul et après lui, d'autres choses se sont passées. Non, le gouverneur, il a même dit à travers son communiqué officiel, il n'a jamais démissionné et il n'en a pas l'intention. Il réitère son engagement à travailler pour le peuple du Sankuru. Il ne pouvait pas faire autrement. Continuer à poser les actes alors qu'on lui a dit toutes affaires cessantes serait une véritable rébellion contre son autorité hiérarchique. La raison fondamentale, c'est à chercher dans les injonctions politistes, les stratégies politiciennes.
Il y en a eu auprès du gouverneur parce qu'il est indépendant.
Ne nous voilons pas la face. Le FCC tient coûte ce que coûte à ce qu'il adhère au FCC, mais il a des convictions personnelles. Lui, c'est un agent de développement. Il voudrait travailler pour l'intérêt de la population plutôt que d'entrer dans une logique traditionnaliste des partis politiques.
Christian Moleka, je rappelle que vous êtes analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Pour le seul mois de novembre, 3 gouverneurs ont été destitués. Un a échappé de justesse à la motion, c'est celui du Kasaï central. Les mêmes reproches presque qui reviennent, mauvaise gestion. Quelle lecture faites-vous de cette situation?
Merci madame pour la question. Je tiens déjà à rappeler que cette conjoncture d'instabilité n'est pas nouveau. Vous allez vous rappeler que durant la législature passée, celle de 2006, sur les 11 provinces avant le découpage que nous avions, seules 4 provinces étaient stables. Kinshasa, le Katanga, le Nord Kivu et un peu le Kasaï. Et donc 6 provinces étaient instables, plutôt 7 provinces étaient instables, et la province de l'Équateur, par exemple, a eu 4 gouverneurs. Vous avez eu José Makila, Baïndé, Kouagialo, puis Impetu. Ça veut dire que depuis l'installation des provinces, nous vivons systématiquement une instabilité liée au rapport entre l'Assemblée et l'exécutif, et quelques provinces semblent incarner des îlots de paix depuis 2006. C'est une constance. Maintenant, quelles en sont les raisons? On l'a déjà évoqué dans les débats passés. C'est qu'il y a à la fois des questions structurelles, notamment liées à la qualité d'hommes qui forment les institutions, et une question conjoncturelle liée au cas présent, c'est la rétrocession qui ne va pas aux provinces. Et donc si on parle de la qualité d'homme, en 2006, il y a un politologue, le professeur Bob Kabamba, qui a produit un bon document qui a retracé la sosie des élus, des gens qui composent nos parlements. Et en 2006, le professeur Bob Kabamba a démontré que pour les élections provinciales notamment, la majeure partie des élus étaient soit des commerçants, soit des pédagogues, des enseignants. Et qu'au niveau national, on avait plus des libéraux et donc plus de politiciens de carrière. La composition du Parlement indique donc qu'on avait de moins en moins d'hommes ayant une certaine expérience politique qui composent les assemblées provinciales. Et donc ça a justifié en 2006 l'instabilité que nous avions, à la fois tant au niveau des animateurs eux-mêmes de l'exécutif ou de ceux qui composaient l'Assemblée. En 2018, nous avons pris l'option d'assouplir davantage les conditions d'éligibilité. Ça veut dire on est simple diplômé d'État et on dispose de ce qu'on a appelé l'expérience socio-professionnelle des 10 ans. Et donc on pouvait postuler. Conséquence, une inflation de candidatures de ceux que l'on peut appeler de nouveaux venus dans la scène politique, les artistes, les musiciens, les comédiens, qui sont venus rejoindre cette liste déjà grande de ceux qui veulent faire la politique au Congo. Et par voie de conséquence, on a davantage remis en question la qualité de ce qui constitue nos institutions politiques. Et donc avec une qualité de plus en plus dilatée, on ne peut pas avoir des assemblées de qualité parce que les institutions ne sont que le reflet de ceux qui les animent ou de ceux qui les composent. Mais là, d'un point de vue conjoncturel, eh bien, vous avez depuis 4 mois un gouvernement central qui n'envoie plus de rétrocessions aux provinces. Et lorsqu'il n'y a plus de rétrocessions, ça veut dire des députés impayés, du personnel impayé, vous renforcez, vous allumez des nouvelles zones de tension en province. Et donc, nous avons des nouvelles tensions aujourd'hui qui sont liées au fait, même si on ne le dit pas, qu'il n'y a pas d'argent en province, il n'y a pas de rétrocession. Et quand il n'y a pas de rétrocession, les élus tournent vers le gouverneur.
Ça a à voir avec le gouvernement.
Oui, mais justement, quand on ne reçoit pas leur dû, ils retournent vers le gouverneur qui devient la petite caisse où tout le monde veut prendre. Et quand tout le monde veut prendre, conséquence, ça crée plus de tension autour du gouverneur.
Alors, lorsqu'on parle de mauvaise gestion, c'est juste, est-ce que c'est une raison valable?
C'est une raison valable.
À peine 8 mois qui sont élus pour certains et d'autres moins que ça. Il y a déjà une motion à gauche, à droite. Est-ce que c'est pas trop tôt?
Pourquoi je parle des qualités? On peut dilater l'expression, mais lorsqu'on parle des qualités d'hommes, ça veut dire lorsqu'on parle de mauvaise gestion, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à gérer n'ont pas les compétences requises pour bien gérer la province. Il y a des provinces où, oui, manifestement, on a un exécutif qui ne fait pas preuve de bon management. Et puis également des élus qui, parce que étant face à des besoins financiers, mettent en place des mécanismes pour faire chanter les gouverneurs. Et là, vous avez d'autres cas de la qualité des élus eux-mêmes. Donc, on a à la fois la qualité au niveau des élus, mais également la qualité au niveau de ceux qui sont en train de gouverner les provinces.
Alors, tous ces gouverneurs destitués par leur assemblée provinciale refusent de démissionner. C'est le cas du gouverneur du Olomami, le gouverneur de l'Ituri, le gouverneur de Sankourou. Ils estiment que la procédure n'a pas été respectée. Est-ce que c'est compréhensible la réponse donnée par ces gouverneurs?
Mais parce qu'il y a des voies de recours. Lorsqu'il y a des vices de forme, il y a un droit de voie de recours que les gouverneurs peuvent utiliser pour casser les décisions de l'Assemblée. Donc ça, c'est un débat de droit qui peut se continuer si tant est que les procédures ne sont pas bonnes. Mais au-delà du fait qu'il y a des questions de procédure, il y a le fait qu'au Congo, tout finalement devient dialogue politique. On cherche des solutions politiques même à des problèmes qui ne le sont pas, qui sont d'ordre juridique ou de respect des textes. Et donc on va en faire une affaire politique, on finira par des négociations autour vraisemblablement du ministre de l'Intérieur à Kinshasa pour concilier, des négocier et vous appeler
à
trouver des compromis.
Et tous ces gouvernements sont à Kinshasa
justement pour trouver des compromis autour du ministre de l'Intérieur. Là on sort de l'état de droit, là on sort de la relation délibérant-exécutant, on tombe dans un jeu politique où tout est consensualisme, il faut négocier pour tout trouver.
Il faut négocier et...
pour arriver à un compromis. Et donc on négocie même à la loi.
On négocie, les négociations se font entre les gouverneurs et le ministre de l'Intérieur, où il faut associer aussi les présidents des assemblées provinciales.
Généralement, le ministre de l'Intérieur se met en négociateur, il met autour de lui la présidente de l'Assemblée et le gouverneur et les amène à trouver une solution à moyen terme qui est un compromis, une compromission contre la loi. Puisque la loi dit, lorsque les élus ont voté, et lorsqu'ils ont, ils ont voté dans les normes, dans les respects de la loi, on ne négocie pas.
Merci Christian Moleka. Professeur Jeff Mudimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département de sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Professeur, quelle analyse faites-vous de cette cohabitation difficile entre les institutions provinciales en RDC, notamment les cas qu'on a cités tout à l'heure dans notre émission?
Ok, merci beaucoup madame pour la question que vous venez de me poser. Et je voudrais aussi saluer et remercier ou féliciter M. Christian Moleka pour ses interventions.
Merci.
Et en effet, je me joins aux éléments qu'il a évoqués qui peuvent expliquer cette crise au niveau du fonctionnement des institutions provinciales. Mais à ce qu'il a dit là-bas, je voudrais aussi ajouter deux éléments. Et je pense qu'il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre, cela n'est pas une surprise. Pourquoi? D'abord, lorsque nous considérons le mode ou la manière dont les députés provinciaux ont été élus, il n'est un secret pour personne. La Commission électorale nationale souveraine, nationale indépendante, allais-je dire, n'a pas fait du bon travail. Ce qui fait que si réellement il y a des cas de députés qui ont été élus réellement, il n'est un secret pour personne que la plupart d'entre les députés n'ont été que désignés. Et la Commission électorale nationale indépendante qui n'a pas été vraiment indépendante, qui n'a pas été vraiment autonome, dans l'organisation des élections, pouvait se permettre de désigner certaines personnes recommandées par des composantes politiques à gauche et à droite, et finalement, il y a des gens qui se sont retrouvés comme étant députés. Et à ce titre-là, lorsque on sait que le fondement du pouvoir que l'on exerce n'est pas le peuple et que c'est le parti, alors à ce moment-là, on ne travaille pas dans le sens de la satisfaction des besoins de la population, mais on travaille dans le sens des injonctions que le parti ou la composante donne. Ça, c'est le premier élément que nous pouvons ajouter à ce que M. Christian a pu dire. Deuxième élément, il faudrait reconnaître que le gouvernement de coalition est un gouvernement par essence très faible ou même fragile. Lorsque nous considérons d'abord la composition des différentes assemblées que nous citons ici, il n'est un secret pour personne. La plupart de ces assemblées-là sont dominées par des membres du FCC. Alors, on ne peut pas comprendre que le FCC soit majoritaire au niveau d'une assemblée et pendant ce temps, le candidat qui a été élu est un candidat indépendant ou appartenant à une autre composante. Alors, ne perdons pas de vue aussi que le FCC, c'est une véritable machine suffisamment organisée telle que les décisions qui se prennent au haut sommet se répercutent aisément et efficacement jusqu'au niveau de la base. Il est vrai que certains gouvernements, certains gouverneurs sont reprochés du fait qu'ils n'ont pas été, ils n'ont pas bien géré. Mais madame, laissez-moi vous dire que ce serait être très naïf que de se contenter seulement de cet argument. Comme on dit, est naïf tout celui qui pense que le rossignol est un oiseau qui chante. Et pourtant, au-delà de la chanson du rossignol, il y a toujours un message que celui-ci est en train de répercuter. Et c'est ce message-là qu'il faudrait bien percer pour comprendre les jeux qui se passent. Il n'est pas aussi mal indiqué pour le FCC, par exemple, d'instrumentaliser les députés pour permettre à ce que les députés fassent tout de manière à ce qu'on ait un gouvernement de l'obédience du FCC, là où on a constaté que les gouverneurs étaient d'une autre tendance, soit tout simplement ici des indépendants. Alors ça c'est un problème très réel. Alors la conjugaison de tous ces éléments, y compris aussi le fait que dans certaines assemblées, il y en a qui donc on assiste à l'impayement des députés. Alors je pense que l'un des moyens à la disposition des députés pour pouvoir réclamer, par exemple, leur paiement, c'est notamment d'exercer la pression ou encore de menacer les gouverneurs avec des motions de censure, de sorte que même s'il y a un gouverneur qui peut partir aujourd'hui, mais c'est lui qui va le remplacer, on lui dira, écoutez, attention,
il risque d'avoir les mêmes problèmes.
Des erreurs comme votre prédécesseur, voilà le sort qui vous attend. Alors, la conjugaison de tous ces éléments-là, y compris aussi le niveau d'instruction. Madame, nous sommes un pays presque à part.
Professeur,
est-ce que vous pouvez comprendre? Permettez que je termine, je chute.
Oui.
Vous pouvez comprendre que nous soyons un pays où on met l'accent beaucoup plus sur l'expérience que sur le niveau d'instruction en matière de candidature à tel ou tel autre poste. On se pose la question, mais pourquoi est-ce que nous avons des universités, pourquoi nous avons des instituts supérieurs si le niveau d'instruction n'est pas considéré comme critère de sélection ou encore de maintien d'une candidature? En tout cas, on n'en parle presque pas, mais on insiste sur l'expérience et seulement sur la nationalité congolaise. C'est ainsi que nous avons plus de médiocres qui nous gouvernent ou qui aspirent à nous gouverner. Je pense que si nous sommes très conscients, il faudrait que l'on arrive à mettre un accent très particulier aussi sur les niveaux d'instruction. À ce moment-là, lorsque nous aurons des députés d'une certaine qualité, et cela aura des répercussions aussi sur la manière de faire fonctionner les institutions au niveau provincial.
Merci, professeur. On va vous redonner la parole tout à l'heure. Donc, vous rejoignez un peu cet auditeur, Yves Malipo, qui dit que les arrangements politiques, les coulisses et les billets des banques ont joué un rôle prépondérant au détriment de la compétence. Maître Soudi Kimputu Alimasi, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Kelly.
Vous êtes expert en décentralisation. D'abord, aux auditeurs, nous devrions avoir Maître Georges Kapiamba dans cette émission. Malheureusement, nous n'arrivons pas à le joindre. Maître Soudi Kimputu, je disais tout à l'heure que vous êtes expert en décentralisation. Pour le seul mois de novembre, je l'ai dit avant que vous ne puissiez nous rejoindre dans cette émission, trois gouverneurs ont été destitués, celui du Lomami, celui de l'Ituri et enfin celui du Sankuru. un a échappé de justesse à la motion, c'est celui du Kasaï central. Même reproche pour tout, presque même reproche, hein, pour tous ces gouverneurs. Et quelle lecture vous faites de cette situation?
Merci beaucoup pour la question. Je pense que ce problème qui tend à se généraliser commence à prouver de plus en plus que le processus de décentralisation qui était pratiquement dans sa phase d'essai après des mandats doublés, le premier mandat doublé depuis 2007, commence à accuser ses faiblesses. Pourquoi j'ai dit ses faiblesses? Il y a tous les niveaux, au niveau que ce soit du pouvoir central, que ce soit au niveau des provinces. Je ne cesse de rappeler que nous sommes dans un régionalisme politique. La première confusion, c'est de croire que les provinces sont placées sous tutelle du pouvoir central, alors que cette tutelle n'existe pas. Seul le gouverneur des provinces et représentant du pouvoir central, il est placé sous tutelle en ce qui concerne les matières relevant de la compétence du pouvoir central. Mais la confusion tend à élargir cette compétence sur l'ensemble des compétences que gèrent les provinces. Voilà le premier problème d'où il vient. Le deuxième problème, c'est celui des règles du jeu qui consiste à ce que les coalitions politiques, les formations politiques puissent se mettre ensemble pour présenter les candidatures des gouverneurs de province au sein des assemblées provinciales. À ce niveau, je peux souligner le manque de culture de décentralisation, parce que à ce niveau, on devait en principe permettre à ce que les assemblées provinciales, les députés provinciaux, puissent faire un choix judicieux sur les différents animateurs qui devront conduire dans différentes provinces. Mais malheureusement,
on leur impose un choix. C'est ça que vous voulez dire?
Oui. Effectivement, parce qu'il y a des provinces où vous arrivez, vous trouvez pratiquement qu'il y a des gouverneurs qui sont pratiquement des bougres, excusez-moi les termes. Quelqu'un qui n'a aucune notion de gestion de la chose publique, mais la politique, les coalitions, et tout ce que je parle comme technicien. Je voudrais pas que les gens me prêtent des intentions, je parle comme technicien. Et vous arrivez, vous trouvez à la tête d'une province, nos provinces sont des petits pays. Et lorsqu'on a opté pour le régionalisme politique, c'est pour permettre à ce que ces provinces-là puissent fonctionner et avec même leurs propres lois lorsque nous avons des édits. Ce sont des lois des provinces, avec la seule possibilité de joindre certaines matières au niveau des lois nationales pour ne pas tomber dans le fédéralisme qui était évité par notre constituant. Et hélas, on place à la tête des provinces des personnes politiquement influentes qui n'ont aucun réflexe de gestion de la chose publique à ce niveau-là, ça pose problème. Le troisième niveau, c'est tout ce qui tourne autour des candidatures au niveau de nos différents députés provinciaux. Au fait, avec tout ce que nous avons comme chômage et consorts, nous n'avons pas de représentants, de réels représentants des communautés qui apportent le problème de la communauté. Et pour preuve, vous allez voir lors des discussions des différents budgets, des différents programmes, nos députés provinciaux ne sont pas là. Ils sont capables d'adopter n'importe quel texte que ces gouverneurs présentent, qu'ils les lisent bien, qu'ils les lisent mal, qu'ils les constituent bien ou mal, ça ne les regarde pas.
Mais ce sont les mêmes députés. Ils
attendent tellement qu'ils soient investis. On applaudit. Après avoir applaudi, maintenant, lors de la mise en œuvre, les mêmes députés, chacun commence à venir demander sa part. Pas la part des gens qui les représentent. Chacun commence à venir demander sa part. Et lorsque le gouverneur ne donne pas cette part-là, les mêmes gouverneurs, pour ceux qui sont un peu plus malins, un peu plus intelligents, ils se retrouvent, ils disent, bon, voilà, si je continue à donner ça, je ne saurais pas gérer. Lorsqu'ils refusent, eh bien, ils tombent sous le coup d'une motion. Donc, nous avons un problème de culture. Nous avons un problème de maîtrise, de connaissance du processus à tous les niveaux, que ce soit au niveau central et au niveau provincial. Et aujourd'hui, je peux personnellement conclure qu'il y a des faiblesses et que le système en principe devra absolument être revu. pour Alors, que maître, nous puissions avoir une garantie de gestion de nos provinces.
Maître Soudi, vous dites que le processus de décentralisation commence à afficher ses faiblesses, on ne le constate pas aujourd'hui seulement, même avec la précédente législature, on connaissait ce genre de problème.
Oui, l'autre fois, parce que ça a fait 12 ans, nous étions en train de mettre ça dans le panier des essais-erreurs, il n'y avait pas assez d'expérience, on disait, bon, voilà, il faut laisser le temps, mais à l'allure où vont les choses, il n'y aura pas de provinces qui vont fonctionner, nos populations vont tourner en rond avec les différentes motions et aucun programme de gouvernement provincial ne sera mis en œuvre et suivi. Parce que si vous voyez, les anciennes motions et celles actuelles, les raisons sont bonnes. On dit mais gestion de quoi ? Ça peut être un dossier dans lequel les députés ne se sont pas retrouvés ou carrément ça peut être une vraie mais-gestion. Eh bien, dans quel domaine ? Vous n'avez pas de détails précis. Et ces genres de comportements vont se répercuter de plus en plus et les provinces vont se retrouver les 5 ans après. Rien n'a été géré. Nous connaissons le cas. Là où se calme, c'est là où les gouverneurs de province ont assez de moyens, donc ils donnent assez aux députés provinciaux. Et je vous mets à défi, Madame Kelly, si on dit que les assemblées provinciales, les députés provinciaux ne peuvent que bénéficier des jetons de présence. On enlève les salaires et tout ce qu'on a mis comme avantage. Vous verrez combien de candidats députés provinciaux très prochains.
Merci, Maître Soudi. Christian Moleka, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga.
Je suis Michel Bopé depuis Lubumbashi. Pour notre part, nous estimons que c'est simplement cette crise. Nous estimons simplement que cette crise constaté dans quelques provinces du pays et les produits du déséquilibre que le pouvoir en place a connu en n'ayant pas la majorité dans les institutions parlementaires du pays. Et donc, ceux qui ont la majorité parlementaire sont ceux qui tirent les ficelles afin de faire vivre leur espoir politique de voir son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo échouer pendant ce quinquennat de son règne politique.
Comment vous réagissez à ce point de vue de Michel Bopé de Lubumbashi?
Merci Michel Bopé pour votre intervention. Je pense que le problème peut être vu autrement. C'est que la politique est un rapport de force. Le rapport de force est volitif. C'est vrai qu'on a voté en 2018, mais le jeu politique continue au sein des institutions. Et si une plateforme estime que le jeu lui est favorable et qu'il peut inverser les rapports de force, il peut le faire. C'est le jeu politique, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a un élément peut-être que vous auriez pu suivre dans le raisonnement du professeur Moudimbi, que je salue également en passant, c'est qu'il a relevé un fait important. Dans les 4 provinces dont on fait allusion ici, sauf erreur de ma part, tous les gouverneurs ne sont pas du FCC. Il s'agit soit des indépendants, soit pour le cas du Maweja, de l'IDPS. Et donc on a vraisemblablement des cas de perturbation dans des provinces où le gouverneur n'est pas du FCC, alors que la majorité des élus sont du FCC. Est-ce que ce n'est pas une volonté de reprise en main de la majorité FCC des provinces qu'ils ne contrôlent pas? C'est une éventualité qu'on peut prendre comme hypothèse d'analyse, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on ne veut pas voir le président réussir, ça veut simplement dire que le rapport de force ayant évolué à leur faveur, ils estiment qu'ils peuvent changer les choses à leur avantage. C'est ça le jeu politique.
Alors, on a suivi Maître Soudi qui parle de la faiblesse du processus de décentralisation qui commence à s'afficher.
Oui, mais il a dit ce que je dis en d'autres termes. Vous savez, la décentralisation, ce n'est pas seulement une loi. Et comme toutes les lois, il y a derrière ce qu'on appelle une structure mentale qu'il faut changer. Chez nous, nous avons cette facilité à changer les lois, sans que les structures mentales, les schèmes de pensée des gens évoluent dans le sens des lois. Conséquence, il y a une inadéquation entre les textes que nous votons et le niveau de culture des personnes censées mettre en œuvre ces lois. Donc si vous n'avez pas des hommes capables de mettre en œuvre les lois telles qu'on les vote, eh bien il y aura une inadéquation entre les hommes et les lois. Par exemple, vous avez des ministres de l'Intérieur qui sont dans les réflexes de gérer la province, alors que la loi a changé, ou inversement de gouverneurs qui pensent qu'il faut continuer à dire nous dépendons de Kinshasa, alors que la dynamique de loi a changé. Donc il y a d'un côté les lois qui ont avancé. Il y a de l'autre, la mentalité, les structures mentales des acteurs politiques qui doivent évoluer en harmonie avec les lois. Sinon, il y a un décalage qui va toujours se ressentir.
Et pour l'amour Kendi de Lubumbashi, qui estime que, qui pense que tout ce qui se passe dans certaines assemblées est dicté par certaines autorités à partir de Kinshasa.
Je ne sais pas exprimer comme lui, je n'ai pas les éléments si probants que lui. Je constate simplement, comme je l'ai tantôt rappelé ici, qu'il s'agit des provinces où les gouverneurs ne sont pas du FCC. Est-ce que on peut faire des raccourcis en disant, voilà, puisqu'ils ne sont pas eux, donc ils sont en train de jouer sous les équilibres pour gagner les provinces, c'est un aspect, mais fondamentalement, il y a une question de qualité d'hommes, il y a une question de qualité de ceux qui animent les provinces, et si on ne travaille pas dans la qualité des hommes, on n'aura pas des institutions de qualité.
Merci, professeur. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Mbandaka.
Junior Bompong a parti des avis de Mbandaka. L'évidence est que les provinces vont mal. Cependant, toutes choses restant égales par ailleurs, les législatives provinciales n'ont pas doté les provinces des animateurs appropriés. La plupart des élus de nos provinces ont accédé au pouvoir par la tricherie et on ne peut pas donc se tourner voir les assemblées provinciales sombrées dans l'anarchie une après l'autre. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, messieurs les journalistes, nous nous retrouvons aujourd'hui avec des dirigeants politiques sans base réelle aux commandes des provinces. Et la conséquence, on est que l'émotion devienne un mode d'emploi, et bien c'est vraiment un virage pour la démocratie qui est prise au piège par le chantage et la manipulation politique pour faire plier les exécutifs provinciaux. Nous sommes loin alors de la légalité. L'imbroglio a pris le dessus et se joue un sport au gré des humeurs des uns et des autres.
Professeur Jeff Mudimbi.
Ok, merci beaucoup. Je salue l'intervention et respecte le point de vue de notre compatriote. Tente de me rejoindre un peu dans ce qu'il soutenait comme idée. Et je pense qu'il faudrait que nous nous mettions un peu à réfléchir de cette manière-ci. Et les gouverneurs ont été élus sur base d'un programme qu'ils ont présenté aux députés, aux honorables députés. Réellement, ils méritent d'être appelés honorables. Et c'est sur base de ce programme que les députés ont accepté d'élire elle ou tel autre gouverneur, en qualité de gouverneur. Mais on ne peut pas comprendre qu'au bout de quelques mois seulement, et je suis sûr que les différents programmes qui leur avaient été déjà présentés ne pouvaient pas se réaliser en dehors de quelques mois à la tête des gouverneurs des gouvernements des provinces.
Mais professeur, il faut préciser, professeur, que certains gouverneurs des provinces n'ont pas encore présenté leur programme.
Oui, c'est cela. Mais on ne peut pas comprendre immédiatement que l'on commence déjà à brandir l'émotion des censures ou encore les menaces de destitution de tel ou tel autre gouverneur. Alors, tout cela ne répond que au principe du mot d'ordre donné par la composante politique. Et cette histoire de mot d'ordre, effectivement, c'est ça qui ternit encore l'image des institutions au niveau provincial. Parce qu'on ne prend pas les personnes de qualité. On ne prend pas les personnes qui sont capables de mieux gérer le programme au niveau des provinces. Mais on choisit des candidats selon qu'ils ont été présentés par telle ou telle autre composante. Alors, in fine, on est rattrapé par notre propre politique. C'est ainsi que les candidats capables de faire quelque chose, de travailler dans le sens du rayonnement des provinces, purement et simplement écartés. On a pris des candidats selon le mot d'ordre qui a été donné. Et la conséquence, elle est là. Par exemple, lorsque nous voyons, nous revenons au cas de Sankourou, où on reproche même au gouverneur d'être absent des jours de son investiture. Je pense qu'il y a lieu de réfléchir un peu. Un gouverneur conscient de la mission qui lui est dévolue, il doit se présenter devant l'Assemblée provinciale. Et le jour où il est attendu,
On apprend seulement que le gouverneur est absent. Pensez-vous un seul instant que le gouverneur...
Il a été convoqué à Kinshasa.
Pensez-vous un seul instant que le gouverneur n'a pas eu le temps de communiquer son déplacement ou de présenter des excuses au niveau de l'Assemblée provinciale? Peut-on accepter que, de nos jours, il y a un déficit communicationnel entre le gouvernement provincial et les assemblées provinciales? Alors, la lecture minutieuse de tout ce qui s'est fait, on comprend très bien qu'il y a, à un certain niveau, où on peut tirer les ficelles, surtout pour le repositionnement, quant à ce qui concerne les assemblées, où c'est une composante qui a la majorité au niveau de l'Assemblée, mais pendant que le gouverneur n'est pas issu de cette majorité au niveau de l'Assemblée provinciale.
Merci, professeur. Maître Soudi Kimputu, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Kalemi.
Bruno Jubikilaï, depuis Kalemi. Par rapport à la situation de crise qui sévit au niveau des institutions provinciales, nous pensons qu'il n'y a pas vraiment une crise, mais seulement qu'il y a l'éveil des consciences des députés provinciaux qui ont compris que lorsqu'ils ont fait les élections, les gouverneurs qui les ont élus ont été imposés. Et aujourd'hui, ils prennent conscience, et cette conscience est une conscience politique que la population devra encourager.
Maître Soudi, il n'y a pas de crise, mais plutôt une prise de conscience politique des députés.
Laissez-moi rire un peu. Je crois que le compatriote, il n'a pas en face de lui la situation générale de ces assemblées provinciales et des gouvernements provinciaux. Nous qui suivons le processus, nous savons que c'est presque dans les trois quarts de nos provinces que ça se prépare. Au fait, je vais encore revenir sur mon point de vue en disant qu'il y a un grand fossé entre le processus lui-même et les textes qu'il organise, et tous les animateurs, je parle de tous les animateurs sans exception, avec tout le respect que je dois aux autres autorités qui se retrouvent dans le lot des animateurs. Nous sommes ici en face pratiquement d'un système hybride qui a plusieurs sous-systèmes dedans. La province aujourd'hui, le fonctionnement de la province au regard de la constitution et des lois de mise en œuvre ne peut pas en réalité dépendre de petits mots d'ordre qu'ils peuvent donner pour perturber le processus. Évidemment, la politique, c'est elle qui guide tout, qui a les grands principes, mais les mots d'ordre ne doivent aller que dans le sens du bon fonctionnement de l'institution provinciale. Alors, si vous voyez la législature passée qui a été doublée, tout ce qui a eu comme motion de défiance, motion de censure, c'est la même chose qui est en train de se répéter. Et cette fois-ci, c'est même très dangereux parce qu'il y a même certains gouverneurs qui sont sous le coup de motion sans avoir présenté leur programme. Moi, je me pose des questions comme technicien. Sur base de quoi on a pris une décision pour faire partir un gouverneur qui n'a pas encore présenté son programme du gouvernement? Ça, c'est de un. Et le mal, il est partout. Il est au niveau des élus provinciaux, au niveau aussi des animateurs. Parce qu'il y a certains animateurs, gouverneurs de province, qui ont été élus, ils se disent ils sont tout puissants et ils dépendent de Kinshasa. Les députés provinciaux, ce sont des petites dames et des petits messieurs. Personne ne peut dépendre, ne peut lui dire un mot. Il arrive là-bas, il devient électron libre. Alors qu'il y a les mécanismes de contrôle et de redressement qui sont prévus par nos lois au niveau de l'Assemblée provinciale. D'ailleurs, c'est le seul organe de contrôle, à part la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances, en ce qui concerne la gestion des finances.
Merci.
Alors, lorsque les provinces, les assemblées provinciales se voient devant un monsieur intouchable, le premier réflexe, c'est de poser un acte qui puisse l'anéantir. et il recourt au même mécanisme dans les textes qui sont des motions de censure.
Alors, Maître Soudi, quelle est la solution? Quelle est la solution pour une bonne collaboration entre les institutions provinciales, Maître Soudi? Mais avant cela, il y a un auditeur qui nous écrit, qui vient de nous écrire du Bas-Zouélé. Il dit ceci: ici au Bas-Zouélé, il y a aussi une crise entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. D'ailleurs, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Bas-Zouélé ont quitté Bouta cet après-midi pour Kinshasa sur invitation du VPM Kyankonde. Donc la crise est en train de s'étendre quoi, dans d'autres provinces aussi. Maître Soudi, quelle est la solution pour une bonne collaboration entre les institutions provinciales?
Je voudrais que tous ceux qui sont dans les suivis du processus de décentralisation comme moi puissent m'excuser sur ce que je vais dire. Moi, je pense qu'il faut qu'on puisse revoir le processus au niveau de province.
On a perdu Maître Soudi. On va essayer de le retrouver rapidement avant la fin de cette émission. Christian Moloka, qu'est-ce que vous proposez, vous, pour une bonne collaboration entre les institutions provinciales?
À court terme, c'est Kinshasa qui a les réponses. Il faut payer la rétrocession. Parce que tant qu'on aura cette épée financière là sur les gouverneurs, nous allons allumer d'autres tensions qui ne devraient pas exister. Il faut commencer déjà par résoudre la question de la rétrocession. Il faut que les finances au niveau de province soient respectées pour qu'il y ait moins de tensions. Deuxièmement, il faut travailler sur la qualité d'homme. Et ça passe par la modification de l'électoral. Il faut qu'on renforce les conditions d'éligibilité pour que nous puissions avoir des alliés de qualité. Et puis enfin, la population. Les élections provinciales ne sont pas des petites élections. On a tendance, nous, à se focaliser sur la présidentielle et les élections nationales, alors que les élus provinciaux ont un rôle majeur à jouer. Il faut que les gens comprennent qu'il faut voter avec qualité pour donner des institutions de qualité.
Merci Christian Moloka. Professeur Jeff Mudimbi.
Merci beaucoup. Pour moi, le fonctionnement des institutions, tant au niveau national qu'au niveau provincial, sont régis par des lois. Et je pense que chaque composante, si elle arrive à jouer correctement son rôle au regard des lois qui régissent les différentes institutions, il y a lieu que nous puissions surmonter les crises ou les dysfonctionnements que nous sommes en train d'observer. De deux, il faudrait qu'on puisse revoir les lois, la loi électorale, qu'on mette aussi un accent sur les critères liés à la scientificité. Les critères niveau d'études doivent aussi compter, parce que à partir du moment où nous avons une assemblée avec des gens qui présentent presque un même niveau d'instruction, il y a lieu de marcher correctement.
Merci.
Mais les configurations actuelles de nos assemblées provinciales ne donnent pas une lueur d'espoir. Mais au moins, nous devons retenir que la RDC n'est pas condamnée. Elle est appelée à mieux vivre.
Merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.